garder le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est le retour de Vincent Dessureau.
Salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas commenté un point de presse ensemble.
Je suis très contente. On a traversé plusieurs tempêtes.
Hey, les tempêtes. Hein?
On est dans le blizzard.
La
on est dans la.
Parfaite.
Ben, écoute, c'est le champ lexical, c'est ce qu'on apprenait au cégep, le champ sémantique de la tempête qui est largement utilisé par François Legault. À tout le monde en parle. Dimanche, c'était phénoménal.
Oui.
Et repris par Christian Dubé aujourd'hui.
Penses-tu qu'on a encore besoin de se faire dire lâchez pas? Puis tout ça, ceux qui.
Ils savent qu'on est tanné.
Oui. Oui, c'est ça. Puis ça sert à quoi de le dire 40 fois? Allez-y. Faites juste, si on est tanné, faites les points de presse les plus courts possibles, les plus directs. Arrêtez de nous mettre justement
Il est bon,
des fioritures.
Il est direct au point. Là.
Parce que je m'imaginais tantôt, pendant que docteur Luc Boileau parlait, retourner avec Arruda. Puis écoute, il n'est pas, c'est pas un party ambulant, là, le docteur Boileau. Là.
Mais, non, mais on comprend ce qu'il dit.
C'est ça. Ça y va, c'est concis et on avance.
On apprend à le connaître. On va faire un petit résumé quand même là, pour les gens parce que c'est beaucoup d'informations. Évidemment, docteur Rupert-Tenay qui expliquait les trucs sur les antiviraux. Là, il y aura un briefage technique sur comment ça sera distribué, tout ça. Bon, tu l'as dit, Luc Boileau qui a parlé, mais commençons par les hôpitaux, le fameux pic. Là. Moi, je me mets à la place du monde, Vincent. Et nous, on est là-dedans tous les jours, OK? On suit les affaires, on lit des articles, on lit des dossiers. Et même à ça, je ne sais plus, je suis rendue mêlée.
Là, c'est clair, avant, on avait des informations pour savoir le pic des cas arrivait quand. Ouais. Là, on ne le sait plus, le pic des cas, parce qu'on on teste plus.
Mais là, lui dit que Boileau a dit que les hospitalisations baissaient, donc c'était un bon indicateur concernant le pic, mais il y a d'autres scientifiques qui disent qu'on l'aurait pas encore atteint. Fait que là, c'est quoi? Est-ce qu'on pige dans le lac?
C'est que si on arrive au pic d'hospitalisation, ce qu'on voit, parce que là, on est à plus 36 aujourd'hui, les gens sortent des hôpitaux, les entrées, c'est moins. Alors, on dit, si on arrive tranquillement au pic, très bientôt au pic d'hospitalisation, c'est parce que le pic des cas est déjà franchi depuis un certain temps, puis on l'a tout simplement pas vu. Là, par contre, la question, c'est bien beau de dire les pics puis les vagues, mais on vient d'enlever un paquet de mesures, là. C'est la rentrée officielle en présentiel. Donc, c'est beau, ça veut pas dire qu'on va juste redescendre à l'infini sur cette belle vague-là qui se termine la cinquième.
12 000 travailleurs absents aussi dans le domaine de la santé.
Ce qui est moins, on avait atteint 20 000. 12 000, c'est encore énorme. Mais on dit que ça revient. Là. Il y a des gens quand même remerciés tous ceux qui sont revenus de la retraite, qui sont pas des immenses nombres. Là, le grand nombre, c'est que là, à 5 jours, il y en a plein qui reviennent. Et là, techniquement, ils sont immunisés pour un certain temps. Ils peuvent revenir avec confiance. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est que l'isolement est pas si long.
Oui,
c'est
quand même comment aussi on constate Omicron dans le milieu hospitalier, parce que je disais en début d'émission que ça ferait sûrement partie des questions ou des points abordés pendant le point de presse, le fait qu'on doit apprendre à vivre avec le virus puis que peut-être dans l'approche hospitalière, on doit un peu changer notre fusil d'épaule, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont rendues à dire ça là.
Oui. Oui, oui. En même temps, dans l'histoire d'apprendre, c'est ça qu'on fait en ce moment, essayer d'apprendre à vivre avec le virus. C'est ça qu'on essaie d'apprendre. Là. Trouver justement comment pas se retrouver à surcharger le système de santé, en être capable de vivre le plus possible. C'est ça qu'on essaie de faire, apprendre. Mais apprendre à vivre avec le virus, ça implique d'apprendre. C'est exactement ça qu'on fait dans ma tête. C'est quand même 3400 patients, mais c'est toujours le bon soins intensifs à 289. Et on sent que ça se calme. J'ai quand même dit que l'étau se desserre dans le système de la santé. Je pense pas qu'il se desserre. Parce qu'on en a encore ajouté aujourd'hui du monde. Là. Mais on sent qu'il est sur le point de se desserrer. Paxlovid, là, il faut quand même se garder. C'est un point majeur de ce point de presse-là. Écoute, c'est pas instantané,
6 000,
là, l'effet
c'est 6 000,
de Paxlovid.
Là.
6300 traitements et faut quand même rappeler, puis tu le disais très bien en début d'émission, c'est pas une fois que t'es à l'hôpital que tu reçois Paxlovid. Donc, c'est en prévention. Alors, ça veut pas dire que sur les 6300 traitements, combien de personnes on va soulager du système de santé? Donc, sur les 6000 qui vont le prendre, écoute, c'est-tu 1000 personnes là-dedans qui se seraient retrouvées hospitalisées? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est quelques centaines? Est-ce que c'est quelques dizaines?
Mais ça va être un peu à l'aveugle, puis il va y avoir un protocole de priorisation. C'est ce que je comprends. Mais, tu sais, je disais, disais tantôt, les questions éthiques que ça soulève, tu sais, quand on sait que le clivage là, se creuse de plus en plus entre les personnes qui sont vaccinées, qui ont l'impression de faire des sacrifices en regardant les personnes non vaccinées engorger le système de la santé. Puis je veux quand même insister pour dire que, puis je le répète, mais je pense qu'il faut pas le perdre de vue, justement, qu'il y a des personnes non vaccinées qui se ramassent à l'hôpital, puis c'est pas des anti-vax, là, c'est pas un choix.
Effectivement.
Mais quand même, si on donne ce Pax COVID à des anti-vax, tu sais, ça explosé.
Ouais, mettons, t'as deux personnes âgées immunosupprimées, ouais, mais t'as juste une dose. Est-ce que tu le donnes à la non-vaccinée qui est plus en danger, mais qui aurait un moyen très facile de se protéger, ou la personne qui est immunosupprimée, qui est vieillissante aussi, mais qui a ses trois doses? Ben là, écoute, c'est une méchante question éthique.
Sur les doses de vaccins, là, parce que on nous l'a bien répété, étant donné qu'on n'aura pas tant que ça accès à Paxlovid et puis que ça s'adresse à... Oui, excuse-moi. Oui. Pourquoi j'appelle Paxlovid? Avec une clientèle particulière, la langue me fourche. La stratégie, ça demeure encore la vaccination, bien entendu. Il y a beaucoup moins de monde qu'anticipé qui vont chercher leur troisième dose, là. On parle de quatrième dose pour les personnes immunosupprimées. Moi, je suis pas en train de remettre en question la troisième dose. Je suis pas une scientifique, mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la science derrière, qui se disent, c'est parce que ils nous disent ça, parce que, bon, on a des vaccins, ils veulent les passer, ou encore, ils veulent qu'on ait l'impression qu'on fasse quelque chose.
Ouais,
il y a un enjeu communicationnel important ici, là, je pense, auquel on devrait penser.
Oui, nous avait dit ça, mais on évolue, parce que moi, j'en ai vu beaucoup là, qui disaient, moi, là, je veux mes deux doses, mais c'est pas vrai que je vais aller chercher la troisième.
Mais pourquoi?
J'ai un beau gros doute là-dessus, surtout que là, un passeport vaccinal éventuellement sera à trois doses. Mm-hmm. Je pense que là, si tu dis, j'en ai eu mes deux doses, ça prend 10 minutes, clic santé, tu prends ton rendez-vous, il y a des gens souriants qui t'accueillent, qui te vaccinent gratuitement, t'es reparti après, tu t'en vas au travail, tu t'en vas à la maison. C'est pas, écoute, ceux qui ont l'impression que c'est...
un grand complot.
Aller dans des tranchées, là, tu t'en vas dans la succursale la plus près, gratuitement, tu te fais vacciner, tu repars, t'es protégé. Écoute, des doses comme ça, je pense qu'on peut, même si tu te fais vacciner comme ça, 5 fois dans les deux prochaines années.
Ta dose, elle sera pas envoyée au tiers-monde, là. Puis je sais qu'on dit plus tiers-monde, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, dans les pays
en voie de développement.
Ça, je pense qu'on n'a plus le droit de le dire non plus. Les pays qui n'ont pas accès à la vaccination autant que nous, disons ça comme ça, qui sont moins peut-être privilégiés sur le plan socio-économique, c'est pas parce que toi, Vincent, ou moi, Geneviève, on refuse des doses que la dose va être prise et envoyée. Puis de toute façon, pour avoir parlé à des éthiciens sur les questions de santé, il y a une question de distribution aussi dans certains pays. Il y a des questions culturelles, religieuses. Donc, c'est un gros problème là qu'on a en ce moment. Puis la solution, c'est visiblement pas de refuser cette dose-là. Mais moi, mon seul questionnement, c'est sur les gens qui ont eu la COVID. Tu sais, au début, on disait non, ça compte pour une shot de vaccin. Puis j'ai je répète, j'ai l'impression, c'est une impression, qu'on demande aux personnes qui ont eu la COVID d'aller chercher nos doses parce que ça va faciliter l'affaire du passeport vaccinal.
La confusion, faut dire... beaucoup sur est-ce que ça équivaut à une dose. Ça vient de qui? Docteur Arruda.
Okay,
le docteur Arruda, moi, j'ai eu la COVID pendant le temps des fêtes. J'écoutais quand la question a été posée, est-ce que quelqu'un qui a deux doses, qui vient d'avoir la COVID, est-ce qu'il a besoin d'une troisième dose? Puis là, il a dit, le docteur Arruda, il dit, ça équivaut à une dose, la COVID. Puis là, après ça, t'as plein d'autres experts. Puis ça se passe un peu plus sérieux. À ce moment-là, il y avait une fatigue avec le docteur Arruda, évidente, mais d'autres chercheurs qui disaient, t'as peu, là, le niveau d'anticorps est vraiment pas pareil entre avoir la COVID et avoir le vaccin. La troisième dose de vaccin, là, tes anticorps, là, c'est dans le piton.
C'est le party.
De sorte que... le gouvernement a dit, ça vous prend tout de suite la troisième dose, ceux qui ont eu la COVID. Et ça non plus, ça suit pas beaucoup les recherches scientifiques. C'est davantage une question, je pense, de logistique, parce que tu veux juste clencher le monde, la machine roule. Oui. Je pense que c'est surtout ça que le gouvernement veut faire. C'est pas mauvais d'avoir une troisième dose quand tu viens d'avoir la COVID, mais la littérature, qui est toujours fraîche, là, c'est changeant, vraiment 2 mois, là, je pense. 2 mois ou 1 mois. Puis le chiffre que j'ai vu le plus, c'est 2 mois. Donc, si t'as 2 doses, t'attrapes la COVID, t'attends 2 mois, t'as ta 3e dose, puis là, tu vas pouvoir avoir une protection plus long terme et plus forte. Mais c'est changeant. Mais oui, le docteur Arruda, autant que le gouvernement du Québec, là-dessus, suivait pas nécessairement les données les plus fraîches scientifiques, je pense.
Ça avait l'air d'être des décisions politiques à certains égards, à certaines occasions. Bon, disons ça comme ça, on reste prudent quand même pour pas non plus jeter
Le message est plus simple de dire attendez pas, allez vous faire vacciner.
Exactement.
C'est peut-être la bonne chose à faire aussi.
Juste te dire qu'on va revenir tantôt avec Dany Saint-Pierre sur la question des restaurateurs parce qu'il y a eu un clin d'œil de Christian Dubé là-dessus tantôt. Là, justement, il comprend qu'on est tanné, mais en même temps, les restos sont fermés. Puis avec Elsa et Marc-André, moi, il y a un truc qui m'a accroché l'oreille, c'est quand Christian Dubé parlait des syndicats, les a remerciés, puis qu'il a dit quelque chose comme ça donne la perception qu'on rame tous ensemble. J'ai trouvé ça bizarre. La perception qu'on rame tous ensemble.
Perception.
Parce que tu sais, le gouvernement, le groupe, les syndicats, ça reste quand même toujours... c'est pas tant une histoire d'amour, j'ai l'impression. Tu voulais nous parler, Vincent, deux choses. Un ministre français qui a voyagé à Ibiza et ça n'a pas passé.
Écoute, une histoire... tu sais, tu dis l'histoire parfaite, un peu comme nos influenceurs perturbateurs. Tu sais, une histoire qui colle...
dans l'actualité.
Qui marque l'imaginaire, tout le monde réagit. Ben là, c'est un peu ce qui arrive en France, où le ministre de l'Éducation, donc l'équivalent de notre ministre Jean-François Roberge, Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, les deux avaient fait leur truc là, sur les woke et compagnie.
Leur lettre commune.
Mais Jean-Michel...
Moi, je suis assez contente qu'il soit dans la marle.
Bon, mais Jean-Michel Blanquer, là, il était au moment où on annonçait le protocole COVID pour la rentrée, là, donc pour les écoles. Où là, t'as la même tension qu'ici, où les parents sont sur le nerf, les profs sont sur le nerf, tout le monde se dit, bon, comment ça va se passer? Il y avait eu d'ailleurs un petit retard dans l'information, ça ne veut pas trop pourquoi. Jean-Michel Blanquer a fait son annonce du protocole COVID de la rentrée. Il était en vacances à Ibiza. À Ibiza, là, pas
La Mecque de la fête.
Non, non,
et
c'est
de la désinvolture. Le Sodome et Gomorre des temps modernes.
Et là, écoute, ça a soulevé là, une immense controverse. Là, tous les partis d'opposition demandent carrément sa démission, disant que là, ça n'a pas de bon sens. Et lui répond, il dit, écoute, depuis 2 ans, et c'est vrai, je travaille 7 jours sur 7 pour la gestion scolaire de la crise sanitaire, grâce au travail de tous, bon, notamment aux professeurs. J'ai pris 5 jours de congé en lien chaque jour avec mon ministère au service de l'école. Et là, il dit qu'il est désolé de la symbolique.
Ok, mais timing is everything là. T'sais, à un moment donné, le comprend dans la position dans laquelle tu te trouves et je sais pas masque floute ton fond, dis-le pas.
Ben, c'est que tu peux pas. Tu peux juste pas partir en ce moment en voyage dans le sud quand t'es un politicien. Quand en France, ils ont 300 000 cas par jour encore, à peu près 300 morts, ça va pas super bien.
Non.
Tu peux juste pas. Surtout que son programme là est contesté parce qu'on dit qu'il y a rien à comprendre, c'est super compliqué. Les profs chialent, les parents chialent. Tu dis aux Français, sortez pas, allez-vous pas en vacances.
C'est pour ça qu'il est ami avec Roberge.
Lui est en plage.
Ils ont le même plan.
Mais imagine François Roberge, chambranlant en ce moment dans l'opinion publique comme il est. Imagine-le, il fait son annonce puis il est à Punta Cana.
Moi, je pense
que jamais on aurait accepté ça.
Je pense que Jean-François Roberge, il va aller prendre des vacances avec Dr Arruda. Ça, c'est ma prédiction.
Et la question, si on lui dit, je travaille à distance, c'est quand même pas pareil. Là.
Ben non,
comme tu dis à tes patrons, je vais faire mon émission de Las Vegas.
Je vais animer du Mexique, Vincent. Comment tu trouves ça?
T'as quand même pas le pouls, les gens peuvent pas te rencontrer aussi facilement. C'est pas la même chose. Quand t'es ministre de l'Éducation en pleine crise, jours de la rentrée, tu peux pas être à Ibiza, donc il s'est planté.
François Legault s'est fait critiquer par ailleurs pour avoir pris des vacances pendant le temps des fêtes, là, au plus fort justement de la crise sanitaire. Puis moi, je me disais, mais c'est un pauvre homme. Tu sais, ça fait 2 ans là, qu'il
rame. Il y a un bout où il faut que tu te reposes aussi pour la santé physique et mentale. C'est juste que t'es pas obligé de te reposer sur une plage à l'extérieur. Tu peux te reposer chez vous dans un petit chalet à 1 heure de route là, où tu seras capable de réagir en cas de problème.
Tu voulais glisser un petit mot sur la mort de l'auteur-compositeur interprète Karim Ouellet, Vincent, parce que tu as étudié avec lui, je pense.
Oui, on est allé au secondaire en même année au séminaire Saint-François et c'est juste une nouvelle vraiment vraiment très triste de voir c'est encore un jeune homme là, on a le même âge.
37 ans.
Et tellement plein de talent et Karim, c'est intéressant parce que moi, comme je connaissais très peu, là, on n'était pas, disons, dans la même gang, mais on se côtoie pendant 5 ans au secondaire. On se connaît quand même un peu et t'sais, très, très discret, tout un artiste. Puis je me souviens pas des mots exacts de son album de finissant, notre album de secondaire 5, mais c'est la description de toute sa vie là,
de ce qu'elle allait devenir,
ce qu'elle allait devenir, un artiste extraordinaire, mais qui est en même temps simple, un peu très discret aussi là. On le voyait, lui il était avec des amis qui jouaient au basket puis tout ça, qui était très flamboyant. Lui on le voyait moins, mais il arrivait au gala culturel, tu sais, il était dans la gang cool un peu là. Moi j'étais pas dans cette gang là, mais la gang cool des gars de basket, tout ça, et là il arrivait lui au spectacle spectacle culturel que genre moi j'animais, puis là il est arrivé avec une chanson guitare, talent exceptionnel. Oui. Donc c'est vraiment un artiste de qualité qu'on perd effectivement.
Oui, puis François Legault a offert ses condoléances évidemment, c'est une lourde perte pour le milieu culturel. Ça, tu sais, ça sert aussi Sarah Amy qui a fait la musique pour Fabuleuse et tout ça, tu sais, c'est quand même des gens qui sont tissés serrés là, cette gang là demande par ailleurs de respecter leur intimité là, c'est ce qu'elle a dit Sarah Amy, je peux comprendre.
Oui,
là, c'est épouvantable ce qui se passe. Puis bon, il y a des informations qui commencent à filtrer sur le fait qu'il s'isolait aussi de plus en plus, mais on va lui rendre hommage un peu plus tard à l'émission. Ce grand artiste qu'on perd aujourd'hui, c'est d'une tristesse infinie. Merci Vincent.
Merci.